Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette Histoire de Savoir. Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un invité que vous avez déjà entendu à de nombreuses reprises sur cette antenne. Il s'agit de Benoît Baerderic, historien et philosophe. Mais vous allez l'entendre tout de suite, il n'est pas venu seul et d'ailleurs, ce n'est pas tellement lui qui va nous parler. Le sujet de ce jour, c'est Hérode. Benoît Baerderic, on s'est déjà croisé à de nombreuses reprises autour de ce micro, mais aujourd'hui, vous venez nous rejoindre avec un invité à vous, chose n'est pas coutume. Vous m'avez contacté en me disant « Mon fils a travaillé sur quelque chose de très intéressant, est-ce qu'on ne ferait pas une émission là-dessus ?»
Oui, tout à fait. Donc c'est Jérémy, mon fils aîné, qui a 18 ans et qui a fait un travail sur Hérode, le roi Hérode, et surtout sur la manière dont Rome a, à la fin de son règne, annexé la Judée au sein de l'Empire romain, donc sous le règne du premier empereur Auguste. Et ce travail a été lu par la plus grande spécialiste actuelle française de Hérode, Mireille Adas-Lebel, qui a reconnu beaucoup de qualités à ce travail. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant qu'il vienne en parler, et aussi éventuellement parler un peu de son parcours, qui est assez original dans la mesure où il poursuit des études à Paris dans le cadre des classes préparatoires qu'on appelle Hippocagne et Cagne, qui préparent aux grandes écoles. Alors peut-être qu'après il viendra ici à l'ULB, mais pour le moment il se prépare dans une filière qui forme de la meilleure manière qui soit aux études littéraire, c'est au lycée Condorcet dans le 9e arrondissement à Paris, un lycée qui a vu passer des gens comme Marcel Proust, comme Henri Bergson, comme Claude Lévi-Strauss notamment, et qui a vu aussi parmi ses professeurs Jean-Paul Sartre qui y a enseigné. Donc voilà, c'est un lycée qui a des traditions, des lettres de noblesse assez anciennes, notamment intégrant aussi dans le contexte parisien la bourgeoisie juive plutôt. Hein. C'est un lycée qui était très ouvert aussi à cette dimension-là, qui malheureusement, évidemment, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, a vu aussi beaucoup de ses élèves être victimes de la Shoah. Mais sinon, c'est un lycée qui est évidemment ouvert à tous les publics sur base d'un parcours quand même d'excellence. Je crois qu'il y a, via Parcoursup, 2900 candidats et seulement 96 qui sont reçus.
Jérémy, donc vous avez, comme votre papa vient de le dire, vous avez présenté et réalisé votre travail de fin d'études sur le sujet d'Hérode. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur Hérode ?
Eh bien, à vrai dire, je voulais au départ travailler sur un sujet qui s'est déroulé durant le règne d'Auguste, le premier empereur romain. Bien sûr, pour un travail de fin d'études, il faut donc un sujet précis. Et j'ai décidé de traiter de la Judée comme modèle d'un royaume client de l'Empire romain pour traiter indirectement de l'Empire dans son ensemble. Et la Judée hérodienne est en fait une sorte de microcosme de l'Empire romain, ou du moins de ses états clients à l'époque.
Pourquoi choisir la période d'Auguste ? Est-ce que c'est une période qui est particulièrement intéressante ? Alors évidemment, avec un papa historien, on peut comprendre la fascination. Ou l'inverse aurait pu être vrai aussi. Il y aurait pu avoir un rejet total de l'histoire. Mais donc, dans votre cas, pas du tout. L'histoire romaine vous passionne.
Oui, c'est ça. À vrai dire, cela ne date pas d'hier, certainement depuis... Depuis mes 8 ans à peu près, l'histoire romaine me passionne énormément. Et la période d'Auguste plus particulièrement, étant donné que c'est un véritable âge d'or de l'Empire romain, le début de l'Empire qui se voit connaître une explosion culturelle, un âge d'or culturel en termes de littérature, architecturale, aussi militaire, politique. Bien sûr, il y a le côté de fin de la liberté, d'une certaine manière, en basculant dans un empire, mais qui est une période extrêmement intéressante.
Alors Jérémy, vous disiez la période d'Auguste est une période fascinante. C'est celle sur laquelle vous vouliez travailler dès le départ. Mais effectivement, quand on se retrouve à devoir faire un travail de fin d'études d'une cinquantaine de pages, on ne peut pas se dire je vais travailler sur Auguste.
Bien sûr, c'est vrai que parler de l'Empire romain dans son ensemble, ce serait absolument colossal et même pour une période, la période augustéenne qui est si riche et qui dure plus de 40 ans. Donc non, il fallait trouver une certaine précision. Et oui, le règne d'Hérode dans un laps de temps pas forcément plus court, mais en tout cas un territoire plus précis, avec une visée plus précise, c'est-à-dire pas exactement analyser toute la vie du roi Hérode, mais plutôt la façon dont il a géré son royaume en tant que bon serviteur de Rome, mais aussi comment est-ce qu'il a gâché tous ses efforts, car le résultat est là. 10 ans après sa mort, le royaume est annexé par l'Empire romain qui n'a plus d'autre choix.
Qu'est-ce qui fait de Hérode un roi si intéressant à étudier?
Alors c'est une personnalité très particulière. Je dirais que ce qui le caractérise beaucoup, c'est l'ambiguïté de deux faces de ce personnage. Il fait partie de ce cercle restreint de grands personnages historiques qui portent le surnom de Le Grand. Donc il a cette figure majestueuse, la construction du temple de Jérusalem qui est aujourd'hui détruit. Il n'en reste que le mur des lamentations. C'est un véritable. Il a créé de véritables chefs-d'œuvre architecturaux et a été. Un roi très puissant, très influent, qui a réussi à traverser différentes crises politiques. Et donc il y a cette figure très grandiose qui reste imprimée dans beaucoup de mémoires. Mais pour autant, chose qui Hérode est connu parmi le grand public, surtout pour le massacre des innocents qu'il y a dans la Bible. Et ça n'est pas arrivé en tant qu'événement historique. Mais pour autant, c'était un homme de terreur, disons. C'était un tyran, un véritable dictateur pour sa population, qui était... qu'il tyrannisait, il avait la figure du dictateur classique, à vrai dire. Une police secrète très développée, des arrestations en masse, une paranoïa énorme de l'homme qui l'a poussé à tuer de nombreux proches, beaucoup de ses concitoyens, et même à commettre un véritable meurtre passionnel sur sa femme, Marianne, alors qu'il l'aimait d'un amour particulier mais véritable. Et donc oui, Hérode est intéressant de par cette ambiguïté, cette bipolarité du personnage qui, d'un côté grandiose et d'un côté terrible.
Alors son règne se tient en parallèle avec celui d'Auguste, d'un point de vue chronologique, comment est-ce qu'on les situe?
Alors, Hérode, et oui, en fait, il y a bien sûr un parallèle avec le règne d'Auguste. Bon, il est 10 ans plus âgé. Hérode naît en 73 avant Jésus-Christ, Auguste en 63 avant. Et lorsqu'Hérode devient roi, en -41, eh bien, il a besoin de la validation de Rome. Il est d'ailleurs couronné à Rome par surtout Marc-Antoine, l'un des triumvirs, donc des hommes forts de l'époque, et dont Auguste, à l'époque Octave, pas encore empereur, est le collègue, un autre triumvir. Donc Hérode est couronné à Rome en -41, mais il n'entre en possession de son royaume de façon effective qu'en -37, étant donné qu'à l'époque où il est couronné, son royaume est occupé par les Parthes, une autre puissance d'Orient. Par la suite, c'est en fait après la défaite de Marc-Antoine, célèbre surtout avec sa relation avec la reine Cléopâtre, donc en -30, Antoine et Cléopâtre se suicident, Octave, futur Auguste, devient le seul maître du monde romain, et Hérode, par d'habiles manœuvres politiques, parvient à rester en place en lui prêtant allégeance. Et jusque-là, donc à partir de -30, ces deux souverains régneront, auront un parallèle dans leur règne. Hérode, lorsque Hérode ne vivra plus que sous le règne d'Auguste, qui régnera 41 ans. Et Hérode meurt en moins 4, Auguste en 14 après Jésus-Christ. Donc oui, la majorité du règne d'Hérode se déroule sous le règne d'Auguste et tous les événements politiques qui seront liés. Auguste réagira absolument à tous les événements politiques qui se dérouleront sous le règne d'Hérode en Judée. Donc oui, il y a un énorme parallèle entre ces deux souverains.
Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Jérémie Beyer-Derick, vous disiez, au moment où Hérode est couronné, en fait, il ne peut pas encore véritablement être roi, en tout cas pas sur le territoire de Judée. Comment ça s'explique ça ?
C'est ça. En fait, c'est une situation assez particulière parce que c'est l'époque des guerres civiles romaines. C'est durant le 1er siècle avant Jésus-Christ. Rome connaît trois grandes guerres civiles majeures. Donc c'est une période géopolitiquement assez chaotique. Donc Hérode, qui n'est absolument au départ pas destiné à régner. C'est un Idumée, donc même pas véritablement un juif. L'Idumée, qui est une région plutôt arabe en fait, qui est au sud de la Judée de l'époque, ne fait partie du pays que depuis deux générations, que depuis quelques dizaines d'années. Et c'est en fait grâce à son père qui parvient à manipuler le roi Hyrcan, qui n'est d'ailleurs pas vraiment roi en fait. Oui, disons que la Judée est déjà à ce moment-là cliente de Rome, de la République romaine à l'époque. Donc le roi n'a plus officiellement le titre de roi, il est grand prêtre. Mais il a la fonction royale. Et le père d'Hérode, Antipater, parvient à... Par une manipulation de Hyrcan, le grand prêtre, qu'on va appeler roi, qui est une personne assez influençable. Donc Antipater, le père d'Hérode, parvient à le contrôler et à devenir d'une certaine manière l'homme fort du pays, car il comprend que pour diriger en Orient, il faut avoir l'appui des Romains. Et il s'arrange pour que cela se fasse et il arrive à jouer sur plusieurs tableaux dans les guerres civiles romaines. Il parvient à être apprécié de César, puis de Cassius, qui est un ennemi de César, mais bon, il s'allie avec tous les Romains, avec le Romain le plus proche. Et donc Antipater est simplement l'homme fort du pays, mais il n'est pas roi, il ne dirige pas officiellement. Et à la mort d'Antipater, eh bien, un membre de la famille régnante, les Asmonéens, qui a été exilé à Rome en moins 63 lorsque Pompée, un général romain, a pris le contrôle de la Judée, eh bien, est de retour au pays et il va essayer de reprendre le trône qui a été usurpé par un autre Asmonéen, mais bon, qui est sous la coupe d'Hérode à ce moment-là. Donc le véritable chef de la Judée à ce moment-là, c'est Hérode, fils d'Antipater, qui n'est donc pas légitime. Alors Antigonos, cet Asmonéen qui veut récupérer le trône, fait appel aux Parthes, une puissance étrangère qui n'apprécie pas du tout les Romains et qui saisissent l'opportunité des guerres civiles romaines pour pouvoir entrer en Judée, faire un coup de force, un coup d'État qui va. Ils vont renverser Hérode et son pantin Hyrcan. Antigonos va être placé en tant que roi de Judée, mais avec l'appui des Parthes. Hérode va mettre sa famille en sécurité dans une forteresse, puis va partir à Rome en moins 41 pour espérer être restauré uniquement avec l'appui romain. Et là, les Romains vont bien se rendre compte du danger. Le Sénat va voir que les Parthes, qui n'étaient pas jugés comme une menace majoritaire auparavant, là viennent de prendre le contrôle de la Judée et ont nommé un roi. Alors qu'il n'y avait pas de roi auparavant, les Romains avaient destitué la monarchie. Donc ils vont se dire que pour contrer le candidat des Parthes, il leur faut un roi également, et ils nomment Hérode roi en moins 41, et restaurent donc la monarchie, car aux yeux des Romains, il n'y a pas de roi s'il n'a pas été validé par eux. Donc Hérode est le seul vrai roi de Judée, malgré le fait qu'il n'est absolument pas légitime dans le sang.
Ceci dit, à partir du moment où effectivement il obtient ce titre auprès de Rome, Ce n'est pas pour autant qu'il peut simplement redébarquer en Judée en disant « Tu te barres de mon trône, c'est ma place ».
Oui, bien sûr. C'est vrai que il n'était d'ailleurs pas du tout, comme j'ai dit, oui, ce n'était pas un Asmonéen, il n'était pas du tout légitime. En fait, Antigonos, le candidat des Parthes, avait une bien plus grande popularité qu'Hérode. Et lorsqu'il retourne en Judée, eh bien, oui, il est roi d'un royaume qui lui reste à conquérir. Donc il trouve tout de même des soutiens parmi la population locale, mais son trône lui vient surtout grâce à l'appui romain. Plusieurs légions lui sont envoyées, et les Parthes sont renvoyés dans leur état par les forces romaines, qui maintenant sont disponibles et peuvent prendre le contrôle de la Judée, qui est livrée à Hérode. Mais Hérode ne dépend pas totalement des appuis romains, il est lui-même un homme malgré tout très intelligent, un grand militaire qui parviendra donc à commander conjointement avec les généraux romains les forces coalisées, à faire le siège de Jérusalem et à prendre la ville sainte. Et Antigonos, le candidat, le roi client des Parthes, sera quant à lui exécuté. Hérode parviendra à obtenir d'Antoine l'exécution d'Antigonos, alors que normalement, il avait droit à un procès. Les Romains n'exécutaient pas des souverains vaincus. Mais là, Hérode parvint à obtenir qu'on exécute son rival, et donc à être le seul candidat restant à la suite de cette guerre civile en Judée.
En début d'interview, Jérémy Béadéric, vous disiez... Le règne d'Hérode est intéressant parce que c'est un roi qui a plusieurs facettes, et notamment une facette très violente. Vous l'avez qualifié de tyran. Est-ce que justement c'est à partir de sa montée sur le trône, alors qu'il est soutenu par les Romains, qu'il a fait exécuter celui dont il a pris la place? Est-ce que c'est là que démarre son règne de terreur?
Eh bien, pas immédiatement. À vrai dire, il est au départ, il a plutôt une certaine popularité. Il a, enfin, toute relative, parce qu'il n'est pas, à nouveau, il n'est pas légitime aux yeux de. Il est assez méprisé de l'aristocratie locale. Mais disons que il fait des efforts malgré tout. Il y a une en moins 30, il y a toute une série de catastrophes naturelles qui se déroulent en Judée, et il. Il joue de ses relations avec les Romains pour pouvoir obtenir un certain approvisionnement, et prononce même une exemption d'impôt pour cette année-là. Donc au début de son règne, il fait des efforts. Le tournant viendra en moins 29, à vrai dire, lorsqu'il fera tuer sa femme, alors qu'il a un amour, ou plutôt une passion malsaine mais profonde pour elle. C'est donc Marianne, elle est une Asmonéenne. En fait, c'est la source du problème, car elle fait partie de la famille royale légitime. Et en plus, il y a 2 ans auparavant, Hérode a fait exécuter son frère. Donc, enfin, il ne l'a pas fait exécuter, il l'a fait assassiner, mais elle se doute bien que c'est son mari qui est responsable de la mort de son frère. Il l'a fait pour des raisons politiques, parce que le jeune Aristobule, frère de Marianne, avait été acclamé roi, puisque c'était un homme légitime de la famille Asmonéenne. Donc, à la suite de ce meurtre, Marianne témoignera ouvertement de sa haine envers son mari, et puisqu'elle se sentait protégée, en fait, par l'amour qu'il a pour elle. Elle sait très bien qu'elle est mariée à un meurtrier, elle sait qu'il est dangereux, mais elle se sent protégée. Ce n'est pas le cas de sa mère, par exemple, Alexandra, qui essaiera de fuir en Égypte dans un cercueil pour rejoindre son ami Cléopâtre qui d'ailleurs déteste Hérode. Mais bon, ça ne fonctionnera pas, et finalement, il finira par tuer Marianne à cause des manipulations de la sœur d'Hérode, Salomé, qui déteste Marianne, qui la voit comme une rival politique, ou plutôt d'influence à la cour, et elle essaya de libérer son frère de l'influence de sa femme pour pouvoir prendre sa place, en fait, comme oui, figure influente à la cour. Et donc, elle essaiera plusieurs fois. Une fois, Hérode a dû s'absenter de la cour et a laissé un certain Joseph, mari de Salomé, sa sœur, pour garder Marianne. Et Salomé a fait courir des rumeurs d'adultère entre eux. Hérode a fait exécuter Joseph, mais s'est repris pour ne pas toucher à sa femme. Et par la suite, Salomé a réussi à faire croire à un complot à Hérode, à un complot de sa femme contre lui. Sous le coup de la colère, lui qui est un homme très sanguin, il est très colérique et il peut s'emporter très vite, eh bien, il a ordonné le meurtre de sa femme. Enfin, disons que c'était un procès officiellement, mais bon, tous les juges faisaient partie de ses proches et puis il était le seul à rendre le verdict. Donc, sa femme a été tuée et ça l'a complètement détruit, à vrai dire. Il a sombré dans une forme de folie au début, telle que Flavius Josèphe, la source principale de cette époque, un juif qui a écrit un siècle plus tard, à vrai dire, eh bien, nous raconte une forme de folie d'Hérode. Il appelait sa femme alors qu'elle n'était plus là. Il se délaissait totalement les affaires du royaume et il a même été pris d'une maladie physique par la suite à cause de son affaiblissement psychologique. Et c'est à partir de là qu'il y eut le tournant vers son règne de terreur. Il se méfiait d'absolument tout le monde et Marianne n'a pas été la dernière personne de sa famille à être tuée d'ailleurs.
Hérode va s'isoler de plus en plus?
Oui, tout à fait. Toujours Flavius Josèphe nous décrit qu'il a cherché du réconfort dans beaucoup de choses, dans ses proches, dans des fêtes, mais qu'il ne l'a jamais trouvé. Finalement, à peine quelques semaines après la mort de Marianne, il exécutera sa mère, enfin la mère de Marianne, Alexandra, qui avait enterré Hérode trop tôt, pensant que sa maladie allait le tuer, et elle a tenté un coup d'État. Il a été mis au courant très rapidement, car il a des services de renseignement très efficaces. Malgré tout, il a été au courant de tous les complots qui ont été fomentés contre lui durant tout son règne, et parfois même jusqu'à les construire. Par exemple, quelques années plus tard, il fera tuer ses propres fils, avec les fils qu'il a eus avec Marianne, puisque il pensait à un complot de leur part contre lui. En vérité, il était. C'était ses successeurs, à vrai dire. Il avait au départ un grand amour pour eux et surtout de grands espoirs. Il les avait envoyés à Rome pour leur éducation et surtout pour les présenter à l'empereur, parce que tout roi client doit être validé par l'empereur, évidemment. En fait, Hérode avait d'ailleurs beaucoup de privilèges en tant que roi client car il avait le droit de nommer ses propres héritiers. Ce n'est pas le cas. C'est rarement le cas. Mais il les avait envoyés à Rome, Alexandre et Aristobule, qui ont suivi plusieurs années d'éducation là-bas. Et à leur retour, lorsqu'ils avaient 18 ans à peu près, eh bien, ils ont été victimes des calomnies de Salomé, toujours elle, qui voyait en eux une forme d'opposition à l'influence qu'elle avait sur son frère et surtout elle se sentait menacée en fait elle se sentait menacée d'une potentielle vengeance de la part des fils de Marianne qui se doutaient très bien qui connaissaient très bien son implication dans la mort de leur mère donc elle a lancé toute une vague de calomnies à leur encontre à la cour et eux qui ne connaissaient pas du tout les affaires de la cour étant donné qu'ils avaient vécu à Rome se permettaient d'évoquer le souvenir de leur mère avec tristesse et à faire de nombreux faux pas qui n'étaient pas tout à fait intelligents dans la situation où ils étaient. Alors Hérode fit même ramener un autre de ses fils, un fils d'une autre de ses épouses, Doris, qu'il avait répudiée avant d'épouser Marianne, et Antipater, qui arriva à la cour et qui répandit lui aussi énormément de calomnies sur ses beaux-frères pour, en espérant pouvoir obtenir, pouvoir devenir héritier après leur déchéance. Et Hérode crut finalement à ces calomnies. Il envoya Antipater à Rome pour le présenter à l'empereur et manifester par ce fait sa nouvelle décision, son nouveau choix quant à ses héritiers. Et par la suite, il alla même à Rome avec Aristobule et Alexandre, ses fils, pour justifier devant Auguste le fait que son changement de décision. C'est là qu'il y eut une véritable joute oratoire devant l'empereur, entre Hérode, qui prononça un discours très froid, qui avait peur de la trahison, et qui accusait ses fils d'être de vouloir l'assassiner, alors que Alexandre, son fils, prononça un discours qui émut toute l'assemblée, parce qu'il se sentait accusé à tort. Et là, Auguste a été très touché par cela, il avait connu les princes durant plusieurs années, durant lesquelles ils ont vécu à Rome. Donc, il a enjoint Hérode de les épargner, de reconsidérer sa décision, ce qu'il fit, mais dès leur arrivée en Judée, dès qu'ils furent rentrés en Judée, eh bien, Hérode fut persuadé à nouveau de leur complot contre lui. C'était un véritable climat de terreur qui régnait à la cour, car il torturait des courtisans pour soutirer des informations sur quelconque complot. Et il finit par en être persuadé, après un soi-disant complot pour l'assassiner lors d'une chasse. Il mit ses fils en accusation. Auguste conseilla un tribunal qui devait se dérouler lors d'un procès à Beyrouth. Et bon, Hérode, évidemment, n'accepta aucun des juges que Auguste avait conseillé qui serait favorable à ses fils. Et finalement, avant même le verdict du procès, il les fit exécuter. Donc, oui, il y avait bien un climat de terreur à la cour hérodienne, qui était en plus de ça alimenté par sa sœur Salomé, pour éliminer tous ceux qui... Une vraie paranoïa, en fait, par rapport à des complots qui n'existaient pas, certainement. Même 3 jours avant sa mort, le Antipater que nous avons mentionné, un autre fils d'Hérode, était exécuté, alors que lui aussi était l'héritier présomptif. Donc, et c'est là qu'Auguste prononça cette phrase qu'il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils. Oui, car c'est véritablement c'est en fait ce problème de succession qui fut le problème majeur du règne hérodien, car il ne laissait aucun successeur apte à pouvoir gérer la situation qu'il a laissée en Judée.
Je vais vous demander de faire un petit pas historique en arrière, parce que vous avez évoqué à plusieurs moments, Jérémie Béarderic, ce concept de roi client de Rome. C'est quoi un état client ?
Alors, c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on considère l'Empire romain dans son ensemble, car c'est un, bien sûr, tel qu'on se l'imagine, l'Empire romain, c'est un ensemble de provinces dirigées directement par Rome. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, surtout en Orient, les Romains laissent en place des rois, plus ou moins indépendants, qui ont une certaine indépendance, sur leur pays respectif, pour garder une forme de sécurité nationale, enfin de calme, parmi la population. Bien sûr, ça nécessite beaucoup moins d'efforts financiers, administratifs, militaires, de garder un pays sous contrôle avec un roi loyal à Rome, plutôt que de l'occuper directement. Et en Orient, il y avait une dizaine d'États clients, comme ceci, avec un roi client qui était loyal à Rome. Et ce que Rome attend d'un roi client, c'est majoritairement la romanisation de son État. Hérode en est un bon modèle, à vrai dire. Il a énormément romanisé le pays avec d'énormes constructions, des amphithéâtres, de nouvelles villes romaines. Il a construit Césarée et Sébastée. Donc Sébastos en grec, c'est Auguste. Et Césarée, ce n'est pas pour César, mais pour Auguste. Donc oui, de nouvelles villes romaines, typiquement avec un style romain de construction. Il utilise des styles architecturaux romains. Il fait même certainement venir des architectes et des ouvriers d'Italie. Dans ses palais, il vit à la romaine. Il fait importer de la nourriture d'Italie. On a même l'inventaire de l'alimentation qu'il avait dans ses palais de Masada, par exemple. Il faisait venir du vin ou des pommes de Campanie, des thermes privés. Et il introduisait par ce fait aussi les mœurs romaines en Judée. En moins 7, il organisa de grands jeux qui devaient se répéter tous les 4 ans en l'honneur d'Auguste, et des jeux à la romaine, donc avec des combats de gladiateurs, courses de chars, tout ce qu'on peut s'imaginer dans la culture populaire. Et donc, cela ne plaisait pas du tout à l'aristocratie sacerdotale de Judée, bien sûr, puisque c'était la plupart des oppositions populaires au règne d'Hérode, en fait, venaient de là, du fait qu'il mettait fin aux traditions nationales pour introduire la culture romaine. Mais il avait aussi le devoir d'entretenir une armée, car il a non seulement le droit, mais le devoir d'en entretenir une, puisque pour assistance, d'abord pour maintenir le contrôle dans son état, mais ensuite pour éventuelle assistance aux forces romaines, si jamais il devait y avoir une opération dans la région. C'est arrivé en moins 25, lors de l'expédition d'Aelius Gallus, préfet d'Égypte en Arabie. Hérode y envoya quelques troupes auxiliaires, donc en aide aux forces romaines. Cela arriva aussi en moins 14, lorsque Agrippa, deuxième personnage de l'Empire, mena une expédition en Crimée. Et Hérode a toujours, ou presque, répondu donc aux attentes romaines, mais il n'a absolument pas le droit d'entreprendre une expédition militaire hors de son territoire sans l'accord de l'empereur spécifiquement. Ça arriva en... Il l'a compris à ses dépens en moins 9, lorsque il entama une opération militaire très rapide chez son voisin Nabatéen, un royaume arabe qui hébergeait des chefs brigands que Hérode avait chassés de son état. Et ces chefs de bande lançaient des opérations de pillage sur les territoires hérodiens, mais ils ne pouvaient rien faire puisqu'ils n'avaient pas le pouvoir d'extradition sur eux. Les Nabatéens les protégeaient. Donc il s'est adressé à plusieurs officiers impériaux qui lui ont dit qu'il pensait que sa cause était légitime. Il a donc envoyé une armée très rapidement pour détruire la forteresse dans laquelle les rebelles se trouvaient, enfin les brigands se trouvaient, après avoir exterminé leur famille qui restait en Judée, donc toujours à sa manière. Mais là, le prince Nabatéen est allé à Rome devant Auguste et a exagéré énormément les destructions qui ont été faites. Il a dit que Hérode avait réduit le pays à feu et à sang. Et que oui, c'était tout à fait, il avait fait ça sans l'accord de l'empereur. Et là, Auguste lui envoyait une lettre, lui disant: Jadis, je vous ai traité en ami, à présent, je vous traiterai en sujet. Donc la colère impériale était forte. Finalement, Hérode a pu rattraper le coup, il a envoyé son meilleur orateur, Nicolas de Damas, pour plaider sa cause. Et finalement, aussi, ce qui a arrangé l'affaire, c'est que Sylla-Ius, le prince de Nabatée, avait été un traître aux Romains pour une affaire qui date d'il y a plus de 20 ans, qui datait d'il y a plus de 20 ans, donc l'expédition d'Arabie a échoué à cause de lui. Donc finalement, Hérode a pu garder la faveur impériale, mais de justesse. Et donc oui, on voit que les rois clients n'ont pas beaucoup de liberté non plus. En tout cas, ils sont maîtres chez eux, d'une certaine manière, mais à l'extérieur, ils doivent obéir aux ordres de Rome et à l'intérieur répondre à leurs attentes, c'est-à-dire majoritairement à la romanisation et assurer un futur stable à leur état.
C'est justement là que Hérode va faillir aux attentes de Rome, puisque vous disiez, Jérémie Béarderi, qui ses successeurs n'ont pas fait long feu, vu qu'à chaque fois Hérode a eu peur qu'on veuille prendre sa place.
C'est ça, oui. Donc oui, je l'ai déjà évoqué, Hérode a finalement fini par assassiner tous ses héritiers qui étaient valables, hein, qui répondait aux attentes de Rome. Et trois jours avant sa mort, il exécutait encore son héritier présumé, Antipater. Donc il laissait le royaume dans son testament à son fils Archélaos, un homme né d'une certaine Maltaké, une samaritaine. Donc lui, il le nommait roi d'une partie de son royaume, le cœur de la Judée, et des régions plus mineures, plus périphériques, ont été données à Hérode Antipas, qui avait le titre de tétrarque, et la région la moins riche, celle qui est la plus dépeuplée, a été donnée à un certain Philippe. Et puis, il n'a pas oublié sa sœur Salomé, qui a reçu quelques cités-états. Mais bon, ça, c'est ce qui était noté dans son testament. Mais ça n'a pas tout à fait été appliqué, parce que, bien sûr, le testament doit être validé par Auguste. Et il y a eu donc une forme de querelle entre les différents princes, les différents héritiers, qui héritaient d'un royaume tout à fait en crise, en fait. Il n'était pas du tout adapté à gérer un État. Il n'avait jamais reçu une éducation comme étant des futurs rois. Le Archélaos, l'héritier qui le roi qui héritait de Jérusalem et de la Judée de manière générale, a été très bien vu au départ. Il a même, en tenue blanche, écouté les doléances de ses concitoyens, promettant de remédier à tout ce qu'avait laissé Hérode, au véritable pillage de toutes les ressources de la Judée pour construire, pour marquer son nom par ses constructions, qui diminuait les impôts, ou alors il autorisait les Juifs à pleurer les morts que Hérode avait causés parmi la population, ce qui était interdit jusque-là. Mais le soir même de cette cérémonie, eh bien, il y a eu des agitations populaires, car Hérode, quelques jours avant sa mort, avait brûlé vif quelques citoyens qui avaient, à cause d'un vol au temple. Il y a eu des agitations populaires à cause de cela, au temple. Archélaos, qui savait bien qu'il devait présenter à Auguste un royaume stable pour être validé, a envoyé une troupe pour les disperser. La troupe a été massacrée par la foule, et alors il a fait entrer l'armée dans la ville, qui a fait plus de 3000 morts au temple. Cela commençait très mal, et il est allé à Rome avec ses deux frères pour que chacun plaide leur cause demande à Auguste une certaine part du royaume. Les accusations contre Archélaos étaient qu'il s'est comporté en roi avant même d'être validé par Rome. Et en plus, cet épisode de la Pâque sanglante au temple a été ne présentait pas du tout un pays stable. Et qui plus est, pendant ce temps-là, cette véritable joute oratoire qui se jouait à Rome, eh bien, en Judée, il y avait beaucoup de troubles. La population que Hérode avait épuisée et tyrannisée pendant des années, maintenant libre, sans aucun gouvernement, se déchaînait totalement. En plus de ça, les Romains entraient dans le pays, puisque il fallait, pour assurer l'ordre et pour faire l'inventaire des différents trésors royaux, ça n'a pas du tout plu à la population locale. Un centurion et quelques soldats ont été tués, donc deux légions sont entrées en Judée, et on fait des massacres en masse, et tout cela pendant que tout cela alors qu'à Rome, Auguste devait prendre sa décision. Il a fini par la mettre en attente, en validant le testament d'Hérode, mais en ne nommant pas Archélaos roi, en attendant de voir, en fait. Quelques années plus tard, alors que la population était tout à fait excédée par Hérode et par son héritier, Une délégation de 50 juifs est allée à Rome pour demander à Auguste tout simplement d'abolir la royauté, la monarchie en Judée. Il préférait en fait un roi, il préférait que le roi soit... ils en avaient marre des Hérodes, en vérité. Ils préféraient la domination directe de l'Empire plutôt que les souverains hérodiens qui étaient, tel que nous le dit Flavius Josèphe, il décrivait Hérode comme une bête, enfin même une bête sauvage à qui on aurait donné le pouvoir sur un royaume, n'aurait pas fait pire que ce que Hérode avait fait, et son fils n'était pas mieux. Et c'est là qu'Auguste, en 6 après Jésus-Christ, a décidé d'annexer le royaume à la demande des Juifs eux-mêmes.
Et du coup, alors pour la Judée et son futur, est-ce que avec la disparition des Hérodiens, les choses se sont arrangées?
À vrai dire, pas du tout. En fait, les Juifs qui avaient eux-mêmes donc demandé l'abolition de la monarchie en Judée ne se sont pas mieux portés sous la domination romaine. Ils ont compris bien vite que avec l'arrivée des légions, cela marquait un changement tout à fait autre. Pour les Romains, pour Auguste, ça ne changeait absolument rien. De leur point de vue, un état client, cela fait tout de même partie de l'Empire. Pour Auguste, c'était un territoire qui lui appartenait déjà, qui changeait simplement de forme d'administration. Mais pour la population, cela marquait un changement radical. Eux qui ne payaient pas d'impôts à Rome auparavant, eux qui... Oui, c'était à nouveau un avantage qu'Hérode avait, parce que les royaumes clients en paient en général, qui ne voyaient pratiquement jamais de légionnaires, désormais ça faisait partie du paysage, et l'impôt était assez lourd, moins lourd que du temps d'Hérode, mais beaucoup plus inacceptable en principe, étant donné qu'il y a bien sûr l'impôt sur la terre qu'ils connaissaient déjà, mais il y a aussi ce qu'on appelle la capitatio, donc l'impôt sur les têtes, donc comme si... chaque citoyen était la propriété de l'empereur, finalement, et qu'il devait payer pour son existence. Donc, dès le règne d'Auguste, des mouvements d'opposition ont commencé à se créer, des extrémistes religieux, en fait, des mouvements comme les Zélotes ou les Sicaires, qui manifestaient leur position à Rome par des attentats en pleine rue, et des assassinats, etc. Les Romains ont resserré peu à peu leur étau sur la Judée par des recensements pour l'impôt pour connaître tous les citoyens. Ça s'observe dans la Bible. Le recensement, c'est le recensement de Quirinus, ce pourquoi Jésus doit retourner à Nazareth. L'évolution de la situation n'a cessé d'empirer. Les empereurs étaient de pire en pire. En 66 après Jésus-Christ, c'en était trop, et la Judée a fini par se soulever après un massacre, après que les légionnaires aient maladroitement massacré des manifestations. La Judée s'est soulevée. Il y a eu un gouvernement extrémiste provisoire le temps qui se préparait à la réponse romaine, qui a été très violente et qui s'est terminée par la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, et dont il ne reste pratiquement plus rien aujourd'hui, à part le mur des Lamentations, donc. Et puis, en 135, une deuxième révolte a fini, l'Empire a fini d'achever la Judée, les Juifs n'étaient plus autorisés en Judée, ils ont dû errer à travers le monde jusqu'à la création de l'État d'Israël, ce qui nous ramène à la situation d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Jérémy Beyer-Derick et à son papa, Benoît Beyer-Derick, de nous avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir.
Wad 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 oh. Wad wad oh. Bada dee. Wad 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 wad